chronique de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Un billet d'Asie, enfin ce n'est pas tout à fait l'Asie, c'est d'Inde. Vous rappelez Jacqueline de Lubac dans une pièce de Sacha Guitry qui disait « Je suis d'Inde » avec Jeanne Fusier-Gir et Marguerite Moreno. Donc le billet d'Asie est d'Inde cette fois. Il s'agit de Lucknow, une ville royale dont le musée Guimet a fait une exposition que vous pouvez voir jusqu'au 11 juillet 2011. Le beau musée Guimet, en effet, le musée des arts asiatiques parisiens, place d'Iéna, nous emporte dans un songe oriental peu commun, Lucknow, situé dans l'état de l'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde, au sud-est de Delhi. La ville de Lucknow est surnommée le Versailles de l'Inde, mais c'est un Versailles tragique dont la période somptueuse et magnifique se situe entre deux drames. D'une part, le sac de Delhi en 1739 par le roi iranien Nadir Shah, et d'autre part, sa destruction partielle par les troupes britanniques en 1856-57 lors de la révolte des Sipahis. 120 années de fêtes, de délires architecturaux et artistiques, dont l'exposition du musée Guimet, reprise d'ailleurs de celle organisée par le Los Angeles County Museum of Art, le fameux LACMA, témoigne avec élégance et brio. Vers 1780, l'empereur mongol Akbar, qui règne depuis Delhi, sa capitale indienne, établit la province d'Awadh, d'une grande prospérité. N'oublions pas que l'Inde, déjà à cette époque, représente le quart de la population du monde. Serviteurs ailés, la dynastie des gouverneurs est autorisée à devenir un royaume au début du XVIIIe siècle, le royaume des Nawabs. Le souverain, Shuja al-Dawla, s'efforce de développer une esthétique autonome à la fois mongole, perse et occidentale. Commence alors une aventure vers la somptuosité, amplifiée par la tragédie que vit l'empereur mongol, puisqu'il y a cette fameuse dévastation de Delhi en 1739 par le terrible Nadir Shah. Cette invasion oblige Alam II à transférer sa capitale d'une part au nord à Faizabad et au sud-est à Lucknow. Il apporte avec lui artistes, intellectuels, architectes, musiciens et danseuses, graveurs et peintres, toute une cour et aussi une population d'artisans, de soldats, de palefreniers, de domestiques. De bourgade rustique, Lucknow devient capitale des arts. Une cité de palais énormes, de bâtiments religieux ou administratifs surgit sur les rives de la rivière Gomti. Lucknow est l'ultime exemple d'architecture mongole, mais teinté d'occidentalisation. Les classiques mosquées flirtent avec les palais rococo, les tours à l'anglaise côtoient les minarets. De longs rouleaux d'aquarelles permettent de faire une incertaine promenade au long du fleuve, contemplative, émerveillé de tant d'inattendues splendeurs. Plus loin, dans l'exposition, les photographies d'Antonio Martinelli reconstituent un univers envolé, mais présent par sa beauté exotique et son réalisme monumental. Il faut pénétrer cet univers sans a priori esthétique, en laissant au vestiaire à la fois son cartable de bon élève occidental et ses connaissances d'esthète orientaliste. Lucknow est un fantasme, une aventure cérébrale et imaginaire qui fait flotter dans l'incertain de l'art. Les poissons étaient l'emblème des Nawabs. Alors il y en a partout, sur les portiques, sur les frontons, dans les plats d'or ciselés, sur les vêtements brodés, sur les narguilés incrustés, et les bateaux ont des formes de poissons. On se liquéfie dans cet océan symbolique. Si cela reste profondément oriental, on trouve aussi des lustres de bohème, des miroirs français, des horloges suisses, des coupoles romaines, tout ce que l'Europe de l'époque peut offrir à la curiosité. La finesse des miniatures, des peintures et aquarelles sur soie ou sur papier a fait la renommée de Lucknow. on en contemple ici de nombreux exemples, ainsi que des objets, des étoffes, des bijoux, des armes, des verreries d'une grande finesse. On est ébloui d'une somptuosité assez proche de nous dans le temps, mais si lointaine dans nos mœurs tellement simplifiées. La présence et l'influence française ont été fortes auprès des Nawabs de Lucknow avant que les Britanniques ne mettent définitivement la main sur l'Inde du Nord. Successivement, Louis-Antoine Pollier, Suisse huguenot d'origine française et qui mourra d'ailleurs français, aux alentours de 1780, et le militaire Jean-Baptiste Eugène Gentil, seront conseillers artistiques et mécènes de l'entreprise royale. Pollier constitue une formidable collection de miniatures maintenant dispersées en Europe, alors que Gentil accumule les peintures et les manuscrits. En 1775 arrive à Lucknow le major général Claude Martin, qui construit à partir de 1796 un palais délirant, dit la Martinière, flanqué de sculptures, de tours et d'appendices, tous plus déroutants les uns que les autres. Tout cela s'éteindra avec le recul de la présence française en Inde, la Révolution et l'Empire, et l'inéluctable déclin des trop luxurieux Nawabs, anéantis par la révolte de 1856. On quitte l'exposition un peu étourdi, désorienté, assez contrarié de n'avoir point vécu cette aventure, et non sans être resté longuement devant l'ultime pièce que l'on peut contempler avant de partir. Un bouclier. Un bouclier recouvert d'or, offert par le roi Nawab à Édouard VII, que la reine Élisabeth II a fort obligeamment sorti de sa collection personnelle. Ce bouclier, orné de perles et de pierres précieuses, finement sculptées, est d'une rondeur parfaite. Il ressemble plutôt à un plateau pour les cocktails et on craindrait vraiment de l'abîmer en un combat singulier. Le musée Guimet offre avec l'exposition un ensemble remarquable de conférences, de concerts, de ballets, de films et de visites guidées. On peut revoir avec ravissement le beau joueur d'échecs de Satyajit Ray, qui date de 1977, lequel se déroule à Lucknow. On peut s'immerger dans le tissage, la cuisine, la musique de l'Inde du Nord. Courez-y, c'est jusqu'au 11 juillet.